le magazine des Nations Unies.
Situation politique volatile et incertaine en République démocratique du Congo à l'approche de la fin du dernier mandat de Joseph Kabila. C'est en tout cas une inquiétude de la MONUSCO que son chef, Mamane Sidikou, a exprimé lundi dernier au Conseil de sécurité. Maintenir l'ambition du programme conjoint de s'attaquer aux causes profondes de la forte prévalence de violences sexuelles basées sur le genre. C'est en substance le message du PNUD lancé à l'occasion de la 4e réunion du comité de pilotage du programme de lutte contre l'impunité et d'appui aux victimes des violences sexuelles dans l'est du pays. Les détails, vous les aurez dans ce magazine. Enfin, une rallonge pour le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole en RDC. Au cours d'un atelier organisé à Kinshasa, le bilan de ce projet dans l'UNOPS et l'un des acteurs clés a été jugé positif. Dans cette émission, le chargé du projet PARSA à l'UNOPS est notre invité. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. La situation politique, nous disions, demeure volatile, incertaine, à quelques jours de la fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Inquiétude exprimée en début de semaine par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'était lors de son intervention au Conseil de sécurité. Alors Jean-Pierre Elali Koko revient avec plus de détails sur les messages de Mamane Sidikou.
Dans son message, le chef de la MONUSCO a reconnu l'incertitude et la volatilité de la situation politique en RDC à deux semaines de la fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Les positions des acteurs clés, notamment de la majorité présidentielle et du rassemblement, n'ont pas sensiblement évolué, a déclaré Mamane Sidikou, et d'ajouter que la majorité continue de rejeter les principes d'un deuxième dialogue, tandis que les rassemblements insistent sur la tenue d'un dialogue réellement inclusif. Nous approchons rapidement de la date symbolique du 19 décembre et du début de l'année prochaine avec un sentiment d'appréhension, a affirmé encore le chef de la MONUSCO. Pour faire face à cette situation, la MONUSCO a actualisé son plan d'urgence pour atténuer la violence politique et protéger les civils dans la mesure du possible, a-t-il ajouté. La mission a notamment renforcé sa présence à Kinshasa pour mettre en œuvre son mandat de protection des civils, a-t-il poursuivi dans son message. Selon lui, c'est la volonté politique des principaux acteurs politiques qui déterminera la façon dont les tensions réelles existantes sont gérées. Le chef de la MONUSCO espère que les efforts de la CENCO avec les différentes parties vont rapprocher la majorité des rassemblements de l'opposition. Un tel rapprochement pourrait, selon lui, contribuer à prévenir la violence le 19 décembre prochain.
Autre actualité, c'est la 4e réunion du comité de pilotage de lutte contre les violences sexuelles qui a eu lieu jeudi 8 décembre à Kinshasa. Le quartier général de la MONUSCO a servi de cadre à cette rencontre autour, outre la ministre congolaise de la Femme, Famille et Enfants, l'ambassadrice du Canada et le directeur pays du PNUD RDC. Honoré Misenga Kalala pour les détails.
Le programme de lutte contre l'impunité et d'appui aux victimes de violences sexuelles est basé sur le genre a comme objectif principal de contribuer à réduire durablement la prévalence des violences sexuelles en RDC. Ces zones d'intervention sont les deux Kivu, l'Ituri, le Kwilu et Kinshasa. Le comité de pilotage de ce programme, appelé aussi programme Toping et Ubakaji, s'est donc réuni le 8 décembre à Kinshasa. Cette réunion a dû passer en revue les résultats déjà obtenus. Madame Priya Gajraj, directeur pays du PNUD RDC, parle de ces résultats.
1263 cas de victimes de violences sexuelles et basées sur le genre ont été référés en justice par les cliniques juridiques et les bureaux de consultation gratuits. 18 noyaux communautaires constitués de leaders religieux et traditionnels, de chefs de famille, d'enseignants et d'étudiants sont fonctionnels. Ils contribuent ainsi au changement de comportement. 4823 survivants ont été pris en charge sur le plan médical et psychosocial. 1712 personnes, dont 1198 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, ont bénéficié du paquet de réinsertion socio-économique. Et 665 victimes mineures ont été rescolarisées.
Outre le ministère de la Femme, Famille et Enfants, d'autres agences onusiennes en dehors du PNUD, en l'occurrence UNFPA, UNESCO, le Bureau conjoint des Nations Unies et la MONUSCO, ainsi que l'ambassade du Canada, font partie du comité de pilotage du programme Tuping ou Bakaji. Et dans ce message, l'ambassadrice du Canada en RDC, Madame Ginette Martin, a insisté sur l'importance de l'implication des jeunes et de la femme dans le développement.
Selon notre premier ministre qui se déclare lui-même féministe, il n'y a pas de solution à la pauvreté et au conflit en Afrique sans la participation active des jeunes et des femmes. Les recherches nous montrent clairement que seulement lorsque la participation des femmes dans la vie économique contribue à la croissance du pays, que ces pays commencent à se développer. Il est temps que les pays africains, et la RDC en particulier, reconnaissent l'importance de la contribution des femmes dans la stabilisation et la croissance économique.
Pour le moment, les défis majeurs de ce programme sont, entre autres, l'insuffisance des magistrats dans certaines juridictions dans les zones d'intervention, la problématique d'indemnisation des victimes de violences sexuelles et l'accès difficile aux offres de services pour les victimes dans les zones enclavées et ou éloignées.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le monde a célébré le 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec handicap et à Dungu, dans la province du Haut-Tuélé, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé, dans le cadre de cette célébration, un atelier de sensibilisation au profit des personnes handicapées et des activistes des droits de l'homme. Dans cette émission, le MAGUN revient donc sur la journée internationale des personnes handicapées pour notamment en saisir le sens et comprendre la notion du concept handicap. Pour cela donc, le MAGUN a approché M. Guillaume Zer. Il est directeur de programme de Handicap International. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Guillaume Zer, bonjour.
Bonjour.
Le 3 décembre est consacré à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. D'abord, Monsieur Zer, commençons par la notion elle-même. Qui est une personne handicapée?
Selon la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, par personne handicapée, on entend une personne qui présente des incapacités physiques, sensorielles, mentales ou intellectuelles durables, dont l'interaction avec des diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base d'égalité avec les autres. Malheureusement, il arrive souvent qu'on réduise les personnes handicapées à leur incapacité, à leur déficience, alors que l'incapacité est le résultat de la déficience, bien évidemment, qui peut être liée à des maladies chroniques, à des maladies graves, à des déformations, à des accidents de la route, diverses formes qui peuvent créer le handicap ou créer la déficience qui amène à l'incapacité. Cette incapacité en elle-même n'est pas handicapante, c'est l'interaction de cette incapacité avec l'environnement qui crée le handicap et qui crée la désociabilisation de la personne, ou son manque d'accès aux services en tout cas. Donc c'est d'une manière dynamique que des facteurs personnels, individuels de la personne à la rencontre de son environnement créent le handicap et créent le processus d'exclusion en fait.
Donc à tout moment toute personne peut devenir handicapée.
Effectivement, de manière temporaire ou de manière durable, en fonction de l'environnement, on peut arriver soit à une participation active de la personne ou à un système qui crée des obstacles et qui exclut la personne. C'est le processus de création du handicap.
Pourquoi une journée consacrée aux personnes handicapées?
Cette journée a été instaurée par les Nations Unies en 1992 afin de mettre en lumière les difficultés rencontrées par cette catégorie de la population qui, selon les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, représente environ 15% d'une population donnée, ce qui représente au niveau mondial près d'un milliard de personnes, et si on ramène ça à la République démocratique du Congo, plus de 10 millions de personnes. Il est important de noter que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui vient compléter cette journée particulière du 3 décembre, a été élaborée en 2006, donc on a fêté les 10 ans cette année. C'est la Convention internationale qui est la plus largement ratifiée par les États membres des Nations Unies aujourd'hui, avec près de 70 pays, et la République démocratique du Congo a ratifié cette Convention en 2015.
Alors, pourquoi le 3 décembre? Est-ce que cette date a une signification particulière?
Écoutez, à ma connaissance, j'ai essayé de vérifier et je ne crois pas qu'il y ait une signification particulière. Je pense qu'elle s'insère simplement dans le calendrier global des journées internationales et mondiales sur les diverses thématiques des Nations Unies et que cette journée a été instaurée, comme je disais, en 1992 et permet surtout l'organisation de divers événements et célébrations de manière afin de sensibiliser la population, particulièrement les décideurs, à la nécessité de la participation sociale des personnes handicapées et surtout de promouvoir une société plus inclusive.
Qu'est-ce qui a été organisé particulièrement en RDC par rapport à
cette journée.
Il y a différentes choses qui ont été organisées. Il y a eu des activistes, des personnes handicapées qui ont participé à des émissions de télévision, de radio. Chaque organisation locale de personnes handicapées en général fait des célébrations, des marches ou invite des personnes pour faire une célébration par rapport à cette journée-là, avec toujours cet objectif de sensibilisation du grand public.
Et c'était sous quel thème ?
Alors le thème de l'année pour 2016 était « Assez pour survivre, mais aussi assez pour vivre ». Il s'agit de souligner le fait que vivre signifie bien davantage que des moyens de subsistance. Aujourd'hui, vivre dignement, c'est plus que juste assurer ses revenus, c'est aussi des aspects d'insertion sociale, de participation civile à la vie active, et tous ces aspects-là doivent être pris en compte afin d'assurer une vie et une survie de ces personnes handicapées.
Donc vous pensez qu'une personne handicapée peut être utile à elle-même et à la société ?
Bien évidemment, j'ose l'espérer. En tout cas, c'est le combat de l'Organisation de Handicap International depuis sa création, qui est de promouvoir les droits et de défendre les droits de ces personnes.
Et justement, j'allais vous poser la question, quel rôle Handicap International et votre organisation jouent dans la promotion des droits des personnes handicapées ?
Alors, Handicap International est présente en République démocratique du Congo depuis 1995 et met en œuvre un certain nombre de projets, dont un projet particulier d'appui aux associations des personnes handicapées. L'objectif de ce projet, réalisé grâce au précieux soutien de la Belgique, est de soutenir les organisations de personnes handicapées afin de permettre à celles-ci et à leurs bénéficiaires de jouir pleinement de leurs droits. Donc ça s'oriente autour de quatre axes principaux: le renforcement des capacités de ces organisations de personnes handicapées, la sensibilisation aux différents problèmes et aux capacités des personnes handicapées, donc en s'orientant aussi sur les capacités et en ne regardant pas uniquement l'incapacité, la collecte de données sur la situation des personnes handicapées dans le pays, et enfin d'appuyer ces organisations dans leur plaidoyer pour un meilleur respect de leurs droits.
Est-ce que Handicap International a des rapports avec des agences onusiennes par rapport à son objectif ?
Bien sûr, on a des rapports opérationnels, des rapports de plaidoyer aussi pour leur prise en compte des personnes handicapées dans les différents programmes qui sont mis en œuvre dans le pays. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Je pense notamment au niveau global au sommet humanitaire mondial qui a été organisé l'année dernière, où une charte sur les droits et l'inclusion des personnes handicapées dans la réponse d'urgence, dans l'humanitaire, a été signée par une vaste majorité des pays, des participants et en particulier des Nations Unies.
Quelles sont les agences avec lesquelles vous collaborez particulièrement ?
On collabore avec OCHA sur la définition par exemple du plan stratégique de réponse humanitaire. On collabore avec l'UNICEF, avec l'Organisation Mondiale de la Santé, avec pas mal d'organisations des Nations Unies, aujourd'hui sur des définitions de politique, sur leur appui éventuel aux projets qu'on met en œuvre à différents niveaux.
Est-ce que vous avez un message particulier par rapport à la journée du 3 décembre, par rapport à la situation des personnes handicapées ?
Je pense qu'il y a des avancées qui ont été faites. La ratification de la Convention internationale par le pays, par la République démocratique du Congo en 2015, a été une grande avancée à notre sens. Aujourd'hui, il y a des débats à l'Assemblée nationale pour la discussion sur une loi organique par rapport au handicap, sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Ce sont des choses que nous et d'autres partenaires qui travaillent sur la thématique soutiennent et poussent pour. Donc mon message aujourd'hui, il est simple, c'est que ces personnes-là sont des hommes et des citoyens comme tous les autres, ont les mêmes droits que les autres et qu'on doit se battre pour assurer leur dignité et leurs droits.
Monsieur Guillaume Zer, merci.
Merci à vous.
Ouvrons cette page avec la section genre de la MONUSCO. Plus de 40 organisations de la société civile du Nord Kivu ont participé la semaine dernière à Goma à une journée d'échange des femmes de cette province. Des échanges sur la problématique de l'implication des femmes politiques et de la société civile au processus des négociations de paix et à la gestion des affaires publiques. La section genre de la MONUSCO a cofinancé l'organisation de cette journée avec ONU Femmes. L'activité a été organisée dans le cadre de la célébration du 16e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité. Volet humanitaire dans l'ex-province du Katanga, les zones de santé de Kasaji et Sandoa confirmées, zones en épidémie de fièvre jaune avec respectivement 6 à 1 cas positif attesté par le laboratoire de l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB de Kinshasa. Dans sa note d'information hebdomadaire du 7 décembre 2016, OCHA indique que ces cas surviennent 3 mois après la vaccination contre la fièvre jaune de près de 800 000 personnes âgées de plus de 9 mois. Enfin, le PNUD et la MONUSCO ont appuyé le Conseil supérieur de la magistrature dans l'organisation du 9 au 10 décembre d'un séminaire sur la stratégie de priorisation de poursuite des crimes internationaux en RDC. L'objectif de ce séminaire était de contribuer à la réduction de l'impunité des crimes par une action judiciaire plus adaptée, tenant compte donc de l'échelle des crimes et de ressources disponibles.
magazine des Nations Unies, l'invité.
Il s'est tenu à Kinshasa du 6 au 7 décembre 2016 un atelier sur la stratégie d'entretien et de maintenance des routes de dessertes agricoles des provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala, du projet d'appui à la réhabilitation et la relance du secteur agricole PARSA. Alors dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'UNOV c'est donc le maître d'ouvrage délégué et notre invité ce dimanche c'est Monsieur Moussa Diagana, il est chef de projet PARSA à l'UNOPS. Monsieur Moussa répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Moussa Diagana, bonjour.
Bonjour.
Le projet PARSA arrive à échéance le 31 janvier 2017, du moins dans sa phase initiale. Quel bilan faites-vous en tant qu'UNOPS?
L'UNOPS s'était chargé dans le cadre de ce projet pour le volet infrastructure. C'est ainsi qu'au terme de ce projet, pratiquement tous les objectifs ont été atteints, aussi bien en termes de réhabilitation de routes de dessertes agricoles, où nous avons pu réhabiliter à peu près plus de 2000 km de route. Les marchés ont été totalement réalisés, 4 marchés, 16 entrepôts, sans compter que nous avons formé, renforcé les capacités des jeunes de ces provinces-là en matière de gestion des travaux routiers, soit sous forme de formation de chef de chantier ou de chef d'équipe. Donc globalement, au terme de ce projet, les activités ont été achevées et les objectifs ont été atteints, c'est ce que la banque et le gouvernement ont constaté. Et
à propos de ces objectifs, vous venez d'organiser à Kinshasa un atelier d'entretien et de maintenance des routes de cette agricole. Quel rôle UNOPS va jouer à cette étape?
À ce stade, c'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir déjà, il est important avant qu'un projet ne finisse, parce que comme vous le savez, il y a 3 années qui ont été prolongées pour la prochaine phase, un financement additionnel de la banque pour 3 ans. L'objet, c'est qu'on prépare le désengagement total, aussi bien de l'UNOPS que du projet, par rapport à cela, et d'assurer par les gouvernements provinciaux la gestion de leurs infrastructures. Donc l'objet de cet atelier, c'est de mettre en place une stratégie de gestion des routes de desserte nationale. On fera également un autre atelier pour mettre en place une stratégie de gestion des marchés et des entrepôts. L'objectif, c'est qu'après le projet, tout cela ne retombe pas. Parce que comme vous savez, nous sommes en Équateur, une route qui n'est pas entretenue, au bout de 4 mois, 5 mois, la forêt reprend ses droits. Alors ce qu'il faut chercher, c'est mettre en place pendant ces 3 ans, tout en une batterie d'activités et de renforcement des capacités, qui commence par une réflexion ici d'abord, pour mettre en place toute cette structure qui permet d'assurer que les provinces elles-mêmes, avec les différents acteurs gouvernementaux, tels que le FONER, la DVDA, le secteur technique des provinces, etc., puissent eux-mêmes prendre en charge, mais sous la maîtrise d'ouvrage des provinces elles-mêmes. Donc c'est tout l'objet de cet atelier-là, assurer la maîtrise d'ouvrage de l'entretien des routes par les autorités provinciales.
Avec le financement additionnel de la Banque mondiale.
Avec, pendant ces 3 ans, le financement de la Banque mondiale. Et après, on prépare petit à petit, parce que comme vous le savez, le gouvernement du Congo a un mécanisme de financement qu'on appelle le FONER. Et ce FONER va, par la suite, prendre le relais pour assurer le financement des travaux d'entretien au niveau des provinces, mais à la requête des gouvernements provinciaux qui auront mis en place toutes les structures et tous les dispositifs techniques permettant de présenter des programmes d'investissement, de les mettre en œuvre, de les suivre, de les faire financer par les provinces, et de valider ces programmes et les justifier.
PARSA ciblait 2500 km de routes de dessertes agricoles, alors que la RDC compte 87 000 km. Pensez-vous que ce projet pourrait s'étendre à l'ensemble du réseau routier de dessertes agricoles?
Bon, c'est certain que c'est déjà beaucoup, mais c'est peu. Quand on réfléchit à l'échelle d'un pays comme le Congo, je sais que entre le gouvernement du Congo et beaucoup d'autres partenaires, aussi bien la Banque mondiale que d'autres partenaires, il y a des efforts qui sont entrepris pour financer, mettre en œuvre d'autres projets d'investissement pour l'entretien routier, pour la réhabilitation des routes de desserte agricole. Nous, UNOPS, nous intervenons dans le domaine des infrastructures et chaque fois qu'on fait appel à nous, nous avons toutes les qualifications, tout le personnel, toute l'approche nécessaire pour mettre en œuvre des infrastructures pérennes, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des bâtiments, de santé et autres. Donc là, nous sommes disponibles pour cela. Mais pour ce qui concerne la partie financement, le gouvernement a des partenaires financiers avec lesquels il est en négociation pour qu'à terme, on arrive vraiment à réhabiliter le maximum des routes, parce que comme vous savez, la route, c'est un peu le cœur du système de production. S'il n'y a pas de route, les productions ne peuvent pas accéder au marché, surtout dans un pays de forêt comme le Congo. C'est vraiment un objectif important d'arriver à réhabiliter le plus de routes possible pour booster les productions, faire que les producteurs locaux puissent accéder au marché à travers les routes qui seront réhabilitées et entretenues.
INOPS, vous êtes disponible, comme vous venez de le dire. Alors, quels sont vos rapports dans l'exécution des travaux routiers avec les services techniques publics tels que le FONER que vous avez cité et l'Office des routes?
Pour ce qui concerne le projet PARSA, nous avons d'étroites relations avec la DVDA. D'abord, c'est la DVDA qui a appuyé. Il y a eu des protocoles d'accord entre l'UNOPS et la DVDA pour appuyer la formation de tous ces jeunes agents qui contribuent à la réalisation des routes. C'est-à-dire les chefs de chantier et les chefs d'équipe ont été formés par la DVDA selon les normes de la DVDA. La DVDA nous accompagne également pour les missions de supervision sur les routes et également pour toutes les réceptions provisoires et définitives des travaux. Donc la DVDA a un rôle important. L'office de route, c'est pareil. C'est elle qui valide, approuve tous les ouvrages d'art que nous faisons et qui également participe de près à toutes les réceptions provisoires et les réceptions définitives des travaux. Il y a également d'autres cas où ils sont directement agences de mise en œuvre de certains projets pour l'UNOPS, où il y a des contrats entre, par exemple, l'Office des routes et l'UNOPS pour réaliser certains travaux.
Et le FONER ?
FONER, non, on n'a pas de relation parce que le FONER, c'est plutôt le financement des activités. Nous avons également nos fonds propres, sauf que nous essayons de mettre en contact dans le cadre du projet PARSA, c'est le cas ici, le FONER et les gouvernements provinciaux, pour faciliter un peu plus tard leur accès à tous les mécanismes de financement de FONER. Donc l'objectif de cet atelier auquel participent les plus hauts responsables de FONER, avec les gouverneurs, ils sont en train d'échanger, nous sommes là pour faciliter ces échanges et pour faire que ces gouvernements provinciaux soient rodés à tous les mécanismes d'accès au financement de FONER. La DVDA également, elle est présente à cet atelier-là. Elle aura son rôle à jouer également, comme je l'ai dit, elle a actuellement dans le cadre du PARSA un rôle important à jouer dans tout ce que depuis la réhabilitation des routes de desserte agricole en méthode IMO, parce que c'est elle qui forme ces agents chargés d'encadrer les populations pour la réhabilitation des routes, à savoir les chefs de chantier, les chefs d'équipe qu'elle a formés. Ça, c'est avec le financement de l'UNOPS qu'on l'a fait. Elle appuie l'UNOPS également pour tout ce qui est réception des travaux, comme je l'ai dit. Et dans la phase post-projet, la DVDA sera ici l'appui conseil auprès des autorités provinciales pour tous les aspects relatifs à la réhabilitation et à l'entretien des routes de desserte agricole.
Monsieur Moussa Diagana, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement et la lutte contre la pauvreté avec l'art. 29 œuvres, 24 tableaux de peinture, 5 sculptures et céramiques ont été présentées lors d'un vernissage à l'Institut français de Kinshasa. C'était le mardi 6 décembre. Une exposition initiée par le PNUD en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts et qui a marqué le couronnement d'un concours d'art lancé le 17 octobre 2016. C'était à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors des prix ont été remis à 4 étudiants lauréats au concours de ce vernissage. Madame Priya Gajraj, directeur pays du PNUD, donne ici au micro d'Honoré Missenga Kalala le sens de cette cérémonie.
On voulait mettre en valeur tous les efforts d'art en soutien au développement et c'était aussi l'opportunité de soutenir la jeunesse congolaise. Donc ça nous a permis d'allier les deux éléments. Je dois dire que cette activité s'inscrit dans les activités du cinquantenaire du PNUD et c'était une opportunité de célébrer ensemble les efforts de développement.
En d'autres termes, on peut aussi combattre la pauvreté par l'art.
Absolument. Je pense que les œuvres qui ont été faites par les étudiants et les étudiantes témoigne vraiment de comment on peut réduire les inégalités, l'exclusion et éliminer la pauvreté à travers l'art, que ce soit la sculpture, la peinture ou la céramique, et toutes ces œuvres sont représentées ici. Les différents prix représentaient une thématique, donc la lutte contre la pauvreté, la place de la femme dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la stigmatisation et l'exclusion des victimes du VIH-SIDA et un prix spécial remis par le jury. Donc on cherchait à souligner différentes thématiques.
Magazine des Nations Unies, question des Nations Unies.
Suivez cette question sur la date du 19 décembre 2016, un suivi bien évidemment de la réponse du directeur de l'information publique de la MONUSCO, M. Charles-Antoine Bambara.
C'est Alain Botoko, je suis reporter indépendant. Ma préoccupation autour de la journée 19 qui fait parler tout le monde. Certaines ambassades disent à leurs ressortissants d'arriver au Congo, mais aussi beaucoup sont en train de vider le pays. Est-ce que la MONUSCO prend au sérieux cette menace et quelles sont les stratégies concrètes sur le terrain pour que au moins nous soyons rassurés dans la suite? Merci beaucoup.
Les dispositions prises par les différentes représentations diplomatiques sont des dispositions de routine. En cas de montée de tension, les représentations diplomatiques donnent des conseils à leurs ressortissants et c'est leur droit. Pour ce qui est de la MONUSCO, comme vous le savez, j'ai dit tantôt dans le laïus d'introduction que nous avons revu notre plan d'urgence, donc nous avons réévalué cela pour prendre en compte effectivement de possibles montées de tension, mais je dis bien de possibles. Nous espérons que rien ne va se passer, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, mais au cas où nous voulons être prêts pour apporter, pour accomplir notre mission de protection des populations, et cela est une fois de plus cardinal pour nous au regard des résolutions du Conseil de sécurité. Je crois que avec les médiations en cours, il faut donner une chance à ces médiations-là. Nous espérons que le 19 ne sera pas quelque chose que beaucoup brandissent comme une date butoir.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Bonjour à tous, moi c'est Hélène Deveau, je travaille au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis juriste de formation, j'ai fait des études de droit et ensuite une spécialisation en droit de l'homme, qui est le sujet qui m'intéresse le plus et qui est le sujet qui m'a amenée ici en RDC. Au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, j'ai une double casquette. D'un côté, je suis l'assistante spéciale du directeur, mais c'est un nom un petit peu barbare pour dire en fait que j'assiste le directeur du bureau dans tout ce qui est les questions substantielles de son travail. Et ensuite, ma deuxième casquette, c'est que je suis le point focal du bureau pour tout ce qui est en relation avec l'espace démocratique, c'est-à-dire donc toute la situation des libertés fondamentales, des droits civils et politiques dans ce contexte électoral que connaît la RDC. Ça va faire un peu plus de deux ans, pratiquement deux ans et demi que je suis dans le pays. Donc j'ai toujours travaillé avec le bureau conjoint, j'étais d'abord au bureau de terrain de Kinshasa, ensuite j'étais dans l'unité de reporting, c'est une unité qui s'occupe de faire tous les rapports que les auditeurs écoutent chaque mois, et donc maintenant le nouveau poste dont je vous ai déjà parlé. Mais bon, je passe pas tout mon temps à travailler, j'ai aussi du temps pour des activités en dehors du travail, notamment je cours beaucoup, j'aime beaucoup faire des courses. Donc j'avais fait par exemple l'année dernière avec la MONUSCO, on était allé à Kigali pour faire le marathon de la paix. J'espère que l'année prochaine on va faire la même chose. Et sinon moi j'aime beaucoup voir des films, donc aller au cinéma et regarder des films. Mes préférences en musique, c'est vrai que j'aime beaucoup danser en fait, donc j'aime les musiques qui dansent. Donc j'aime beaucoup la salsa, mais aussi tout ce qui est la rumba congolaise. C'est vrai que j'aime beaucoup passer du temps à écouter les concerts des différents musiciens congolais. comme qui bah, par exemple, dimanche dernier, il y avait un concert de Rodrigo à la Messe de France. Donc ça, c'est dans les vivants, dans ceux qui sont décédés, malheureusement. Papa Wemba, bien sûr. Donc en matière de sport, moi, j'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup courir. Et en nourriture, j'aime beaucoup le poisson. Et notamment les poissons du fleuve Congo. Les capitaines. Et puis, voilà. après le Bessinisa, je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire. Parce que c'est vrai que c'est tellement passionnant d'être ici. La RDC est un pays tellement fascinant que pour le moment, je peux rester encore un petit peu et apprendre de la RDC et des Congolais. Motez la vie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Une date à retenir dans votre agenda, le 18 décembre, ce sera la journée internationale des migrants. C'est déjà la fin de cette émission. UN Mag, merci de nous avoir suivis. Cette émission a été supervisée par Martin Sebujangwe, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré du Sénégal Alala était à la rédaction et à la réalisation. André Mongo était à la régie d'antenne et moi, Tina Salama, à la présentation. Prochain rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Radio Clapy. À très bientôt. Ciao.